Phare FM, aux portes du Dauphiné, 107.
L'invité. En octobre dernier, votre premier e-book est sorti, Annie Moulin-Stéphane.
Un amour extravagant, une histoire d'amour, de fiction, qui met à mal le mythe du prince charmant. L'histoire, la trame s'inspire de votre vécu personnel, Annie, et invite à s'interroger sur le sens des relations humaines, tout en étant porteur de foi et d'espérance.
Annie Moulin-Stéphane, bonjour.
Bonjour Anaïs, bonjour tous les auditeurs de Phare FM, merci de me recevoir.
Alors avant de revenir un peu plus en détail sur ce livre quand même, attardons-nous un petit peu sur vous, sur votre parcours. Sur l'auteur, vous avez une maîtrise d'histoire moderne, vous avez travaillé à la radio, dans la communication, un beau parcours notamment, entre autres. D'où vous est venue finalement cette idée d'écrire ?
Eh bien, l'écriture et moi, c'est un long parcours. D'abord parce que j'ai d'abord découvert les outils de l'écriture. Quand j'étais toute petite, j'adorais le vocabulaire, la grammaire et donc jouer un peu avec les mots. Et puis ensuite, j'ai eu cette envie d'écrire en tant qu'adolescente, parce qu'on fait un journal intime, donc c'est tout à fait dans cette lignée. Mais ma mère avait découvert ce journal intime. Et donc, on m'a passé un tel savon que ça m'a un peu coupé l'herbe sous le pied, si vous voulez. Donc après, j'ai fait des études littéraires, donc j'écrivais beaucoup. Je suis partie donc en classe préparatoire littéraire. Et là, c'est devenu presque un métier, entre guillemets. Donc cette envie d'écrire, elle était là. Mais elle était court-circuitée par le devoir d'écrire. Et là encore, ben, si vous voulez, c'est comme si cette histoire d'amour entre moi et l'écriture, c'était comme retardée. Donc il a fallu quand même attendre, je pense, la mort de mon père, c'est-à-dire l'année 2011, parce que c'était un peu bloqué en moi. Et c'est souvent le cas, je m'adresse à toutes celles-là qui veulent écrire. Il y a des blocages énormes qui sont surtout psychologiques. Et donc cette envie m'est venue à ce moment-là. Donc j'ai écrit en fait mon enfance, ma conversion à Jésus-Christ aussi, puis abordé pas mal de thèmes. Ça a commencé comme ça. Et puis dans ce parcours d'écriture, il y a beaucoup de choses qui vous reviennent en pleine figure en fait. C'était pas un parcours thérapeutique, je dirais, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient été réglées, mais il y avait un élément qui n'avait pas été réglé. Et donc cet élément-là m'est arrivé en pleine figure en 2012 en fait, presque 5 ans, jour pour jour. Cette histoire que je raconte d'une manière fictionnelle, eh bien en fait, ça fait 5 ans que j'ai commencé à la vivre. Et ça n'a pas duré très longtemps, ça a été quelque chose de très violent. Donc j'ai essayé donc, de la restituer dans ce roman.
Finalement, même si vous dites que ce n'était pas thérapeutique, ça a quand même une part de pouvoir extérioriser ce que vous avez vécu. Ça vous a permis de mettre des mots dessus, de vous en rendre compte.
Ce roman, donc, j'ai commencé à écrire il y a 2 ans, en fait, après avoir vraiment fait un travail sur moi-même suite à tous les événements qui s'étaient déroulés en 2012. Ça a été une manière d'extérioriser, c'est sûr, de témoigner également. Mais cette extériorisation, elle aurait pu prendre différentes formes. Elle aurait pu prendre la forme d'un témoignage tout à fait réaliste. Donc, je n'ai pas perdu cette idée-là. Je pense d'ailleurs qu'on écrira peut-être quelque chose avec mon mari à deux voix là-dessus. Mais ça abordera des thèmes de façon un peu plus profonde. Là, j'ai voulu tout sortir finalement. Et donc, j'ai récupéré tout ce que j'avais écrit pendant cette période très douloureuse de séparation de février 2012 à novembre-décembre 2012. Donc, avec tous ces matériaux, emails, photos, j'ai commencé la trame d'un roman. Au début, je ne me suis pas dit, tiens, je vais faire un roman de cette manière. C'était parti d'un concours d'écriture. Je m'étais lancée et il fallait écrire, donc, je crois, 500 mots par jour, quelque chose comme ça, pour arriver à faire quelque chose au bout d'un certain temps. Et je n'ai pas terminé pour des raisons de santé, mais j'ai entamé le premier chapitre, enfin, tout au moins la première partie du premier chapitre du roman Un amour extravagant, eh bien, est posée sur cette petite base, ce ferment, voilà.
On va évoquer un petit peu ce roman. De quoi parle-t-il ? On l'a dit, c'est, et vous l'avez redit d'ailleurs, une œuvre de fiction, ou en tout cas de perso-fiction. C'est une histoire d'amour, mais alors de quoi parle-t-on finalement dans Un amour extravagant ?
J'ai voulu choisir le titre d'Un amour extravagant parce qu'il nous emmène sur deux pistes. Il nous emmène sur la piste de la passion amoureuse, d'un amour complètement fou en fait, et puis sur la piste d'un amour vrai, d'un amour extraordinaire, j'aurais pu dire extraordinaire, mais je trouvais le terme extravagant beaucoup plus intéressant, qui est l'amour de Christ pour nous, et puis sa manière de nous toucher, et puis de nous restaurer, et puis de nous faire vivre finalement.
En quoi est-il différent des autres romans d'amour que les Français aiment tant d'ailleurs?
Eh bien écoutez, bon, d'abord parce que c'est un roman qui a, je pense, 50% de réalité et 50% de fiction. Donc j'ai choisi, même dans le cadre du roman, le cadre géographique, d'utiliser mes propres souvenirs. Et donc ils se déroulent sur des lieux bien réels. Il n'y a aucune fiction dans les lieux où ils se déroulent en fait. Le premier tome de ce roman s'appelle L'Île Rouge, donc c'est un lieu merveilleux que j'invite les auditrices et les auditeurs à découvrir, qui est situé un peu plus loin que Saint-Raphaël. C'est une île extraordinaire qui s'appelle l'île d'Or en fait. Cet endroit m'avait énormément touchée aux larmes et j'ai voulu donc inscrire la première partie du roman dans ce lieu. Et ensuite, on est transporté à la montagne. Là, ça fait référence, cette arrivée de mon héroïne dans un lieu qui est privilégié, son lieu d'enfance. Ça fait référence à tout un parcours beaucoup plus intérieur par rapport à la première partie du roman où il y a une exposition complète de sa situation et puis de cet emballement passionnel en fait.
Votre héroïne, Alice, de son oui. petit nom, c'est un petit peu Annie Stéphane quand même aussi, Alice. Quelle part est-ce qu'elle a de vous, cette héroïne ?
Je crois qu'elle a cette part un petit peu contrastée de quelqu'un qui retient énormément ses émotions, en tout cas qui les a retenues, parce que je ne suis plus la même, mais j'ai quand même voulu retranscrire ce que j'étais à une certaine période. Et c'est à la fois quelqu'un qui est très retenu et très pudique, et en même temps très extraverti et très passionné. Ces deux aspects-là se retrouvent dans l'héroïne. Dans son parcours, j'ai voulu vraiment amener quand même les choses en douceur, avec beaucoup de pudeur, parce qu'autrement, je crois que j'aurais fait monter les gens au plafond. Donc, j'ai vraiment axé sur un développement, je dirais, en douceur, de la découverte de la foi et puis de la découverte de sa propre identité. Mais c'est vrai qu'il y a un rapport, parce que je pense que si je n'avais pas vécu cette crise au sein de mon couple, il y a des tas de domaines de ma vie qui n'auraient pas été mis à la lumière. Et je pense que je ne suis plus la même aujourd'hui à cause de cela. Donc j'ai découvert aussi plus de mon identité à cause de cet événement. Et c'est pour ça que j'essaye de le faire passer au travers du parcours d'Alice.
Vous parlez de foi, vous parlez de Jésus-Christ tout à l'heure au début de l'entretien. Pourtant, ce n'est pas un roman chrétien. D'ailleurs, vous n'aimez pas cette appellation d'auteur chrétien, de roman chrétien. Pour vous, ça ne veut pas dire grand-chose.
Auteur chrétien, oui, parce qu'on ne peut pas séparer l'écriture et puis ce qu'on produit, notre créativité, de ce que nous sommes, enfin, profondément. Roman chrétien, je suis un petit peu plus réservée. J'ai aucun mépris pour les romans chrétiens, parce qu'en fait, il y en a beaucoup pour la jeunesse, et je trouve que c'est extraordinaire de pouvoir faire passer le message de foi et d'espoir à la génération des petits, et puis également des adolescents. Mais j'ai rarement trouvé du roman chrétien, en tout cas francophone, qui puisse aborder des thèmes un petit peu, pas sulfureux, mais qui sortent de l'ordinaire, quoi. J'ai souvent eu l'impression que c'était un peu mollasson, vous voyez, pas forcément dans l'écriture, mais dans la manière de présenter les choses. Et si vous voulez, moi j'avais envie un peu de sortir des cadres, donc cette histoire réelle, elle s'inscrit dans ma vie de chrétienne, hein, entièrement. Et en même temps, je veux dire, les thèmes abordés dans la deuxième partie sont ceux d'une découverte de la foi. Donc, je revendique le terme de roman chrétien, mais pas dans le sens religieux. Parce que j'ai essayé d'évacuer au maximum tout ce qui pouvait être théologie, au maximum, tout en permettant une accroche avec ceux qui ont une base ou qui sont croyants, qui ont un sens du divin, tout au moins.
Justement, à qui s'adresse-t-il finalement ce roman ? Est-ce que c'est plus une œuvre d'évangélisation ou est-ce que ça peut être aussi, alors on va utiliser le jargon de Canaan, mais une œuvre d'édification des chrétiens, des couples qui peuvent être en difficulté ?
Écoutez, en premier lieu, je pense que le roman en tant que fiction s'adresse à des personnes qui n'ont pas trouvé la foi ou qui la cherchent en tout cas. Et donc c'est l'axe que j'ai donné, c'est aussi un roman d'édification dans le sens où je veux dire, les problèmes de couple sont souvent pas minimisés mais ils sont spiritualisés à l'extrême. Et en fait en ne mettant pas des mots sur les réalités des crises, eh bien il y a beaucoup de chrétiens qui mettent ça sous le paillasson en fait et qui continuent leur vie dans un espèce de déni, des couples chrétiens qui continuent leur vie. Ce n'est pas forcément des gens qui ne s'entendaient pas, mais c'est un peu comme des petits renards qui sont venus manger la vigne. Et puis, à un moment donné, même des couples très engagés se retrouvent devant des choix qui sont difficiles. Donc, moi, c'est ce que j'ai vécu personnellement, d'une manière assez, je dirais, dramatique et un petit peu, je dirais même un peu dingue, quoi. Je veux dire, j'arrive même pas à comprendre aujourd'hui tout ce qui a été en jeu dans cette crise où finalement j'ai retrouvé mon amour de jeunesse et puis ça se croisait avec une difficulté dans mon couple. Donc j'ai fait ça pour les deux parce qu'il faut un peu ouvrir aussi le débat Et il faut mettre les mots réels sur les mots réels. M-A-U-X.
On sent quand même l'émotion encore dans votre voix, alors que j'imagine que ça a dû demander des heures de travail et des choses que vous avez dû ressasser déjà, pas mal de choses. Pourtant, c'est quelque chose qui vous touche finalement. J'ai envie de dire, où est la fiction dans ce roman ?
Ah, la fiction, elle est dans une histoire qui s'entrecroise, mais c'est un peu comme dans la vie. Hein. Il y a comme une sorte de patchwork. Il y a des fils de fiction. Ben, c'est vrai que j'ai jamais connu de Gardélie. Je n'ai jamais vécu sur la Côte d'Azur. Voilà. Mais bon, j'ai voulu lui donner le titre de fiction parce que je ne pouvais pas lui donner celui d'autobiographie, en fait. Et je voulais réserver ce type d'approche à quelque chose de beaucoup plus, je dirais peut-être même plus violent, mais que je voulais partager avec mon mari. Je ne veux pas parler des choses intimes, si vous voulez, sous un rapport profond, sans que lui soit pleinement associé. Mais il a déjà été pleinement associé dans tout ce qui est technique, et, voilà, et mes enfants aussi. Donc c'est avec beaucoup de confiance que j'ai écrit ce livre, et je pense qu'il peut vraiment toucher des personnes qui sont au bord de la crise. Je dirais femmes au bord de la crise de nerfs, vivant des espèces de blocages qui sont insolvables. Et je pense aux chrétiennes qui peuvent vivre des années de cauchemars, même en ayant beaucoup prié. Parfois, il y a des actes comme ça, qui sont à la fois des actes terribles, mais qui quelque part nous libèrent, parce qu'au travers de cela, il y a des choses qui viennent à la lumière. Et c'est ça l'important. Donc je voudrais témoigner aussi que Dieu est fidèle, puisque vraiment il a permis que nous puissions nous réconcilier. C'est une partie donc que j'évoque aussi, ce processus de réconciliation qui n'est pas magique du tout, mais qui prend ses racines dans le fait qu'on travaille chacun de notre côté aussi.
C'est aussi ça finalement, ce message de foi, de vie, d'espérance que vous voulez avant tout transmettre par cet ouvrage ?
Oui, c'est certain, parce que dans des situations qui sont vraiment dramatiques, où finalement on ne voyait pas l'issue d'une crise qui était larvée, ensuite on passe à une crise qui est, je dirais, un tsunami. C'est un tsunami émotionnel, ça a des implications aussi matérielles, une séparation, c'est matériel aussi, moral, ça remet tout en cause aussi au niveau des rapports avec la famille, avec les enfants, avec notre propre foi, avec nos amis ou ce que nous pensions être des amis. Il y a tout ça en jeu. Si vous voulez, c'est l'ensemble que je voulais porter en disant que cette crise qui est terrible, hein, qui peut même mener à la destruction quelque part, eh bien, il y a un espoir. La seule bémol que je mets à cette possibilité d'espoir, c'est que ce n'est pas quelque chose de magique. Ça va nécessiter quand même de la part de la personne qui est en cause de se remettre en question à un moment donné et de chercher la vérité. Donc pour moi, la vérité, c'est une personne, c'est Jésus, et c'est à cela que j'essaye d'amener la lectrice ou le lecteur.
Alors vous parlez de vos enfants et de votre mari, justement. J'allais vous demander, comment est-ce que ce livre a été perçu ? Est-ce que finalement ils l'ont lu ? Qu'en ont-ils pensé ?
Bon, j'ai encore des points d'interrogation. Parce que quelque part, mon mari donc l'a lu, et donc lui, il approuvait totalement ce que j'ai fait, quoi. Je veux dire, il m'a énormément soutenue pendant toute la période d'écriture, mais qui est un petit peu secrète quand même, la période d'écriture. J'ai beaucoup écrit la nuit, et c'était même pénible. Je ne vais pas recommencer pour le prochain. Mais donc les enfants l'ont chacun lu, parce que je leur ai envoyé, et ils ont tous eu des réactions à la hauteur en fait de ce qu'ils sont. J'ai trois enfants. J'ai voulu aussi faire passer un petit peu de ce qu'ils sont au travers des personnages dans le roman. Donc il y a des éléments dans lesquels ils se retrouvent. Mais par exemple, avec ma deuxième fille, qui est quelqu'un qui a un caractère très très fort, il y a une scène où on se dispute au téléphone. Et donc c'est une scène en fait qui a eu lieu, hein. Je crois que ça a été un des moments les plus douloureux. Et en fait, ma fille, face à ça, j'étais obligée de la prévenir, si vous voulez, que ce personnage, Sophie, c'est pas elle. Et bon, elle a très bien compris, mais ça demande quand même un certain temps. C'est pour ça que je n'ai pas écrit tout de suite. Et puis, ça demande une communication. Mais ça, c'est le propre de la relation parent-enfant. Et puis, dans un cadre où finalement, je ne pense pas qu'ils aient vraiment été exposés en tant que personne. Voilà.
Vous disiez avoir écrit beaucoup la nuit. Sur vos titres, vous dites que vous avez écrit 1 à 6 heures par jour pour un amour extravagant. Ouais. Pourquoi avoir écrit la nuit ? C'était une volonté de votre part de ne pas trop le montrer, ou c'était plus que c'était finalement en ce moment-là que vous vous sentiez le mieux pour écrire ?
Moi, je crois que c'est un phénomène purement psychique, qui fait que quand on se couche, on libère un certain nombre de barrières. Et donc, on ne trouve pas le sommeil. Et puis, il y a des images qui nous arrivent, il y a des mots qui nous arrivent, des scènes qui nous arrivent. Et donc, le seul moyen, c'est ou de noter trois choses sur un petit calepin, ou bien de se mettre à l'ordinateur et puis de commencer à écrire. Et pour moi, ça s'est passé un petit peu comme ça. Pas pour tout, mais c'est vrai que je pense que c'est lié au phénomène de la créativité qui demande quand même de lever un certain nombre de barrières. Donc, ce sera peut-être pas comme ça que j'écrirai le prochain. J'en sais rien.
Parce qu'effectivement, vous dites que ce roman n'est qu'une étape vers d'autres livres en gestation. Ça, c'est une bonne nouvelle. Vous nous parliez d'un possible livre avec votre mari, donc Denis. Et finalement, Un amour extravagant aura une suite aussi ?
Alors, il y aura une suite, oui, parce que j'ai mis tome 1. J'avoue que je me suis lancée un petit peu de manière abrupte, mais je voulais parler d'autres thèmes que celui du prince charmant, de la passion, de la réconciliation. Donc, il y aura une suite. Donc, on va suivre Alice et Didier, mes personnages principaux, parce qu'ils vont évoluer, mais dans un autre cadre. Et je vais croiser d'autres histoires avec. Je vais essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus complexe, parce que là, je me suis limitée à 200 pages. À une histoire finalement assez linéaire, même s'il y a deux ou trois petits retours en arrière. Et là, je voudrais construire quelque chose d'un petit peu plus complexe parce qu'il faut avancer dans son art aussi. Il faut se jeter des défis également.
Une histoire qui serait toujours liée à votre propre histoire personnelle ou rentrer beaucoup plus dans une œuvre de fiction à part entière ?
Je pense qu'il y aura encore des petits éléments parce qu'Alice va évoluer. Elle va devoir régler un certain nombre de problèmes qui sont juste ébauchés dans le premier tome. Mais disons que l'essentiel, ça va être une histoire fictionnelle là. Je vais reprendre quand même un endroit que j'aime beaucoup, qui se situe à peu près à une heure de route de l'île d'Or, de l'île Rouge. Et je vais intégrer des éléments qui seront un petit peu plus policiers, disons qu'il y aura des antagonistes, il y aura des défis que mon héroïne et son mari vont devoir relever. Et il va y avoir des personnages qui ont été juste ébauchés dans la première partie, qui vont avoir des choses à dire ou à faire.
On sent que les choses sont déjà plus ou moins claires quand même dans votre tête et que vous avez une ébauche
J'ai déjà une petite ébauche. Et d'ailleurs, quand j'y pense, j'ai travaillé la nuit pour la faire. Donc j'espère que ça n'inaugure pas des insomnies. Mais en tout cas, oui, j'ai déjà une ébauche, un plan. Je voulais vraiment encourager les gens qui veulent écrire aussi, parce que c'est un de mes buts, au travers d'une plateforme qui s'appelle Ruth et Noémie, c'est de permettre aux femmes d'écrire. Et souvent, on se limite. Donc, il y a des gens qui ont besoin de faire des plans avant de commencer à écrire, et d'autres gens qui partent simplement comme ça, sans idée, et qui découvrent petit à petit ce qu'ils ont à faire. Moi, je suis un petit peu entre les deux. J'ai des aspects intuitifs, mais j'ai une formation qui fait que ce n'est pas le plan en trois parties. Mais quand même, il y a quand même une structure que je souhaite garder pour ne pas embrouiller les lecteurs, pour que les choses soient cohérentes.
Pourquoi avoir choisi un format e-book plutôt qu'une édition papier ?
Je crois que c'était parce que j'ai tellement eu de moments d'hésitation. L'édition papier, c'est quand même quelque chose d'assez complexe. Ça demande de chercher des éditeurs, chercher des collections, envoyer des propositions. Et donc, je n'avais qu'une partie, donc c'est tome 1. Je me suis dit, il faut le lancer en e-book parce que autrement, tu le feras jamais sortir. C'est un peu comme un petit bébé. Il est dans le ventre de la maman et à un moment donné, il pousse et il le faut. Comme je déménageais en même temps, je savais très bien que j'avais pas l'énergie pour me lancer dans une édition papier, même si je le souhaite de tout mon cœur. Et j'espère qu'il y aura un succès suffisant pour que je puisse aussi investir dans ce genre de choses ou présenter ensemble les deux tomes à des éditeurs qui publient du roman.
Pourquoi est-ce qu'il faut l'acheter? Ce livre.
D'abord, c'est une chrétienne. Il y a peut-être quelque chose à découvrir parce que certains pensent que les chrétiens sont bêtes, qu'ils ont que de la théologie à la bouche, qu'ils sont incapables de vivre des choses passionnées. Et je pense que la passion, c'est quelque chose d'important. Le problème, c'est la manière dont elle se canalise, évidemment. Et la deuxième chose, c'est parce que si vous êtes face à des murs par rapport à votre conjoint, face à des murs par rapport à vous-même, si vous vivez des tentations qui vous déchirent, eh bien, vous allez trouver des espaces dans ce livre pour peut-être régler cette question. Ce ne sera pas magique non plus, mais en tout cas, vous allez passer aussi, j'espère, un bon moment. Et j'espère l'avoir écrit de manière assez simple, mais en même temps en donnant une couleur littéraire. Donc tout le monde peut s'y retrouver là-dedans.
Merci beaucoup Annie-Stéphane. On rappelle donc le titre, Un amour extravagant, disponible notamment sur Amazon.
Amazon, Fnac.
Voilà, donc voilà. Les différentes plateformes, vous pouvez acheter des e-books.
Voilà, merci beaucoup. À bientôt. Et puis je vous souhaite vraiment de vivre un amour extravagant.
Et vous retrouvez plein d'infos sur ce livre sur le site unamourextravagant.fr.